Donc, j'en profite pour passer donc à ce qui nous occupe aujourd'hui, le débat sur les violences policières. Donc, en quatre points très rapides. Bon, donc je vais aller très très vite. D'abord, les violences policières, on peut faire une sorte d'état des lieux. Elles recouvrent deux questions. D'abord, les questions des violences policières commises souvent à l'occasion d'un contrôle d'identité, puisque la possibilité de faire des contrôles d'identité s'est multipliée depuis donc la loi Vaillant, depuis la loi Sarkozy de mars 2003. En fait, dès que les policiers estiment qu'il y a une menace pour l'ordre public, en gros, ils peuvent faire des contrôles d'identité. Donc les contrôles d'identité, ce n'est pas simplement quand une infraction vient de se commettre, où là on veut arrêter un délinquant puis on contrôle tout le monde autour. C'est très très vaste, très très vaste. Et donc les possibilités ont été étendues et malheureusement assez souvent, même quand on essaye de faire annuler des contrôles d'identité, souvent les tribunaux valident les contrôles d'identité, la cour d'appel aussi, la cour de cassation aussi. Bien. Donc ces contrôles d'identité se font souvent comme ça dans la rue, de façon, il faut le dire, assez souvent discriminatoire. Hein. Ce sont assez souvent des contrôles au faciès. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est un rapport d'un organisme qui s'appelle le CESDIP, qui est un organisme très sérieux de recherche au ministère de la Justice. Et ils ont observé que la plupart du temps, quand il y avait précisément des outrages à agents suivis de rébellions, etc., souvent, la population maghrébine était surreprésentée aux audiences. Donc, ce rapport sur le fonctionnement du tribunal, d'un tribunal de grande instance de banlieue, l'a tout à fait constaté. Souvent, malheureusement, c'est un certain type de population jeune, d'origine étrangère, qui se fait contrôler. Le problème, c'est qu'effectivement, comme monsieur le disait tout à l'heure, on a vu dans des cadres militants beaucoup de gens qui ont eu affaire à la police lors de manifestations, ont été accusés d'avoir, par exemple, commis des violences sur un policier. La conséquence, c'est qu'après, il y a inscription donc, au fichier national des empreintes génétiques de beaucoup de gens qui sont des militants, aussi bien les faucheurs volontaires, aussi bien les manifestants CGT donc à Marseille. On a vu ça à Cherbourg il y a 2 ans, quand il y a eu des manifs qui ont été assez difficiles à la suite de la fermeture de l'hôpital militaire de Cherbourg. Bref, une vraie pénalisation de l'action militante. Bien, ces contrôles d'identité sont parfois donc suivis soit de 4 heures de garde à vue, hein. La durée maximum c'est 4 heures quand c'est à l'occasion d'un contrôle d'identité, sauf que assez souvent, les policiers disent qu'il y a eu soit outrage, soit violence, et donc là on entre dans un problème de délinquance, c'est-à-dire les infractions qui sont typiquement les infractions retenues lors de contrôles d'identité qui se passent mal, parce qu'il arrive que les policiers tutoient les gens. On a tous vu ça, ça arrive. Moi, à Paris, dans le métro, je le vois tous les jours. Et puis aussi, c'est la BAC qui, assez souvent, c'est-à-dire la Brigade Anticriminalité, qui sont des policiers jeunes, pas formés, très mal encadrés, qui sont souvent à l'origine de problèmes, entre guillemets, de violence ou de bavure policière. Et là, on a un certain nombre de types d'infractions qui sont commises et où on retrouve les gens devant les tribunaux. Ce sont les rébellions. Donc, une infraction qui est souvent suivie d'outrage à agent. Et le problème, c'est que le nombre d'outrages à agent avec rébellion ont augmenté au niveau des condamnations de 30% en 5 ans. Quand on prend, par exemple, 96 et 2001, on a 30% de condamnations en plus d'outrages à agent et rébellion. Alors, ça, c'est des infractions qui sont punies d'une peine d'un an d'emprisonnement quand ils sont commis en réunion, pas punis effectivement, mais une peine d'un an encourue, c'est quand même beaucoup déjà. Après, on a souvent les violences volontaires. Donc les policiers disent, voilà, j'ai un problème parce que j'ai une incapacité de travail à la suite d'une interpellation qui s'est mal passée. Alors ça, c'est les lois Sarkozy qui sont intervenues. Quelqu'un qui était accusé jusqu'ici sans avoir commis beaucoup de violences sur un policier, c'est-à-dire moins de 8 jours d'incapacité totale de travail, était puni au maximum, mais ce n'est pas prononcé, mais le code pénal prévoyait 3 ans d'emprisonnement. Le problème depuis les lois Sarkozy, c'est que c'est 5 ans encourus quand on s'en prend à quelqu'un qui est, comme on dit, dépositaire de l'autorité publique, c'est-à-dire un policier, ou quand on agit en réunion. Ça, c'est les infractions qu'on voit le plus souvent devant les tribunaux. Elles posent beaucoup de problèmes, ces infractions, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a quand même un tiers de condamnations en plus en 5 ans, c'est considérable, et qu'elles posent des problèmes d'accès à la justice. Souvent, les gens ne savent pas qu'ils ont droit à un avocat gratuit. S'ils veulent porter plainte contre éventuellement des policiers dont ils ont à se plaindre, il y a l'aide juridictionnelle, mais souvent les gens ne le savent pas. Souvent, le fait pour les personnes de porter plainte au procureur de la République n'est suivi d'aucun effet. Pourquoi ? Parce que le parquet, c'est-à-dire les substituts, les gens qui travaillent avec le procureur, qui sont des magistrats, ont affaire tous les jours à la police. Ils travaillent avec la police, ces magistrats. Et le fait d'avoir toujours affaire à la police au téléphone pose un problème, c'est humain. Ils ne veulent pas faire de la peine aux policiers, pour nous résumer rapidement. Ce qui fait que, moi je vois à Créteil, sur un week-end, vous voyez, un substitut de permanence, il a 200 appels de la police. Vous imaginez, ce magistrat de permanence, vu qu'il a 200 fois des policiers au téléphone, si à sa prochaine permanence, il a les mêmes policiers et qu'il a poursuivi les policiers, ça va mal se passer, ils ne vont pas être trop sympas avec lui. Donc ça se comprend, c'est humain, il faudrait qu'il n'y ait pas le même service dans les tribunaux. Premièrement, le service qui s'occupe au niveau du parquet des outrages et rébellions contre les agents ne devrait pas être le même service que celui qui s'occupe de poursuivre les violences policières, parce que ça pose un problème. L'autre problème, c'est le problème de preuve avec les violences policières. Parce qu'on l'a vu avec Samuel Morville, le lycéen là, qui a été poursuivi récemment et condamné à 4 mois avec sursis, avec 800 euros d'amende. Le problème qui s'est posé, c'est qu'il avait des témoins. On l'accusait d'avoir craché sur la voiture d'un commissaire de police. Lui, il a dit « Non, j'ai des témoins ». Oui, mais à l'audience, on a entendu les policiers. Le juge a décidé d'écarter les témoins de Samuel Morville. Ce qui fait qu'il y a un vrai problème de preuve à l'audience. La preuve à l'audience, souvent, c'est une preuve policière. Et c'est très difficile pour les avocats des gens qui disent « j'ai été victime de violences policières » de faire entendre les autres témoins qui étaient des gens dans la rue, qui ont témoigné, qui ont fait des attestations. C'est très difficile. Et puis aussi, c'est que tout simplement, le parquet refuse de poursuivre. Donc, il faut porter plainte avec constitution de partie civile. Ça veut dire une consignation. Ça veut dire qu'il faut avoir de l'argent. Les consignations, souvent, en tout cas en région parisienne, elles sont fixées à 500 euros, 1000 euros. Donc, il faut aller devant un juge d'instruction. Ça met du temps. Il y en a pour 2 ou 3 ans d'instruction. Donc, vous voyez bien l'inégalité de traitement. Les policiers, quand eux se plaignent d'avoir un problème de rébellion quand ils font un contrôle d'identité, c'est une comparution immédiate. La personne, elle est jugée dans les 48 heures après 48 heures de garde à vue. En revanche, si vous vous plaignez d'une, entre guillemets, bavure policière, vous devez consigner des sous, vous devez avoir un avocat que vous allez payer si vous ne savez pas que vous avez l'aide juridictionnelle gratuite, et vous devez aller devant le juge d'instruction, ça met 2 ans, 3 ans. Donc ce n'est pas du tout pareil comme traitement au niveau pénal. Et puis enfin, au niveau des condamnations. Il faut bien le dire, très rare que quand quelqu'un se plaint d'une bavure policière, il est très très rare que les policiers soient condamnés. En revanche, il est très fréquent, vraiment, moi je siège en comparution immédiate et je défie qui que ce soit de me dire le contraire, en comparution immédiate, on a souvent sur, 30 affaires de comparution immédiate à Créteil, on en a toujours 5 ou 6 de rébellion, outrage, etc., où les policiers se plaignent. Bon, on relaxe jamais. Jamais. On ne relaxe presque jamais. Sauf quand on est 3 juges considérant qu'il faut relaxer. Mais c'est très difficile pour les magistrats d'être convaincus qu'ils relaxent quelqu'un en disant il n'y a pas eu les policiers n'ont pas été victimes d'outrage, etc. Brièvement un exemple, et puis je vais en finir après ça. L'autre jour, j'ai siégé, il y avait des dames, elles étaient 2 réfugiées de République démocratique du Congo. Elles étaient réfugiées politiques, elles avaient des papiers. Bien. comme beaucoup de réfugiés politiques ou de sans-papiers, elles sont victimes d'une escroquerie au logement. C'est-à-dire quelqu'un vient les voir, comme ils étaient à la rue, etc. Il y en a une qui avait un bébé. Quelqu'un vient les voir en disant « je peux te loger, t'inquiète pas, tu me donnes des sous et je te loge ». Elles arrivent à Créteil dans un logement qui est en fait un logement où les gens avaient été expulsés, qui est un logement vacant, mais qui appartenait pas du tout à la personne qui a pris l'argent de ces deux dames. Pas du tout. C'est une escroquerie au logement, c'est assez classique. On profite des gens qui sont un petit peu dans la misère et comme ça, on les escroque. Donc elles ont donné du fric en liquide et elles se sont retrouvées dans le logement. Dans le logement, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 3 jours? L'office HLM à qui appartenait le logement, ils ont appelé la police et la police est arrivée. Ces deux dames, dont une dame avec un bébé, se sont retrouvées face à des policiers qui se sont fait ouvrir, elles ont ouvert d'ailleurs, et elles ont commencé à crier en disant « mais on a payé, c'est notre logement, etc. » La police a dit « mais pas du tout, c'est pas votre logement, c'est un logement HLM, virez d'ici, vous n'avez pas le droit d'être ici. » Vous vous rendez compte que ça s'est assez mal passé. Elles ont, en fait, essentiellement, elles ont protesté. Il y en avait une qui avait un bébé. On les a vues en audience de comparution immédiate et elles ont été accusées d'avoir frappé l'une des policières avec leur bébé. Alors, c'est quand même intéressant parce que le bébé qui avait 4 mois a été vu aux urgences médico-judiciaires. Le bébé n'avait strictement rien. Donc, franchement, violence volontaire avec arme, l'arme étant un bébé, faut le faire, quoi. Et ben moi, j'ai vu ça il y a 15 jours, enfin il y a plus que ça, il y a quelques mois, à Créteil, en audience de comparution immédiate. Mais figurez-vous que le bébé a été à la maison de l'enfance, à l'aide sociale à l'enfance, pendant les 2 jours de garde à vue de la mère. Et elle était là, au bout de 2 jours de garde à vue, à pas pouvoir s'être lavée, à pas savoir ce qu'était devenu son bébé. Je vous dis pas l'audience comment ça s'est passé. Elle était extrêmement angoissée, donc ça s'est pas bien passé. Eh bien, les policiers ont eu 800 euros de dommages-intérêts pour outrage, parce que les outrages, ça a été, évidemment qu'il y a eu des outrages. C'est vrai, certainement qu'ils se sont fait insulter, ça a été sale con, etc. Bon. Donc 800 euros de dommages-intérêts, c'est le tarif de l'outrage à Créteil, c'est 800 euros par outrage, avec une condamnation. Donc voilà ce qui se passe au niveau de la justice. Donc par rapport à ça, pour finir, il y a quand même des recours. Il y a d'abord la possibilité de connaître ses droits. Il y a l'aide juridictionnelle, donc des avocats gratuits. Il y a la Commission nationale de déontologie de la sécurité, c'est-à-dire que pendant un an, le problème, c'est qu'il y a des conditions un peu restrictives pour la saisir. Il faut passer par un député ou par un sénateur. Elle fait des rapports tous les ans. C'est très intéressant parce que la presse en rend compte. Et si on pense que la justice ne fait pas son boulot, quand on est victime d'une violence policière, on peut saisir cette commission nationale de déontologie de la sécurité, mais il faut un délai d'un an entre les faits et le jour de la saisine. Si c'est au-delà d'un an, c'est fini. Donc, délai maximum d'un an. Il y a aussi la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il faut avoir épuisé tous les recours internes. Ça coûte cher parce que, sauf si on a un avocat gratuit, et puis il faut un petit peu vraiment être très motivé, quoi. C'est dur, quoi. La France a été condamnée. La France a été condamnée en mai 2004, par exemple, pour, comme ça, des bavures policières en garde à vue. Je vous lis simplement, très rapidement, ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. Les hématomes et contusions de l'intéressé étaient trop importants pour correspondre à un usage de la force strictement nécessaire en garde à vue. C'est intéressant. C'est l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit les traitements inhumains et dégradants. Quel autre recours on a? On a évidemment, par exemple, ce que fait la Ligue des droits de l'homme. La commission nationale de la Ligue des droits de l'homme sur les questions de violences policières illégitimes. Amnesty International a fait un rapport aussi cette année qui a été beaucoup repris dans la presse. Nous, à la Ligue des droits de l'homme, on prend des cas. Il y a une commission nationale et il y a des cas qui sont observés, décortiqués au niveau de la Ligue des droits de l'homme, qui a fait une commission nationale avec le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, et on essaye de faire des contre-enquêtes par rapport à ces cas. Donc ça peut tout à fait être important d'en parler à la Ligue des droits de l'homme, qui fera remonter au niveau de cette commission nationale. Et puis, il y a évidemment des propositions à faire, c'est-à-dire que au niveau de nos députés, nos sénateurs, il faut leur dire qu'on peut améliorer les choses. On peut élargir la saisine de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, au-delà d'un an, par exemple, ça serait bien. Saisine directe, ne pas passer par un député ou par un sénateur, que tout citoyen ait la possibilité de saisir cette Commission nationale. La possibilité aussi, c'est possible, que en garde à vue, les auditions par la police soient filmées. Ça existe pour les mineurs, on ne voit pas pourquoi ça ne pourrait pas exister pour tout le monde. Possibilité aussi, par exemple, de faire, ça a été fait à Montpellier par la CIMADE, au niveau des associations de droits de l'homme, des observations des audiences. C'est très intéressant d'essayer de faire des observations citoyennes des audiences, d'aller à l'audience correctionnelle et de voir ce qui s'y passe. C'est très intéressant de faire ensuite des rapports écrits là-dessus. Bref, il y a beaucoup de possibilités, mais pour cela, il faut se ressaisir en fait de façon citoyenne de la question des libertés en comprenant que le droit, ce n'est pas quelque chose, comment dire, de technique. Ce n'est pas du tout technique le droit, c'est quelque chose de quotidien. Et c'est quelque chose qui a un vrai lien avec les questions sociales. Les questions juridiques ne sont pas des questions qui sont dans un éther, dans une tour d'ivoire, qui sont des questions différentes, des questions quotidiennes et des questions sociales. Et quand on comprend ça, eh bien, on comprend que chacun doit se ressaisir des questions de droit et des questions de liberté. Voilà.